Vous êtes avec SBS French.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les incendies en Australie, un week-end difficile qui s'annonce, beaucoup de vent et température très chaude dans les régions. On va voir tout ça ensemble. Et puis en France, anniversaire de la mobilisation des Gilets jaunes, 53e mobilisation. Cela fait donc un an que le mouvement des Gilets jaunes a débuté. Et on débute donc ce journal avec les incendies qui font toujours rage dans certaines parties du pays. Les pompiers de la Nouvelle-Galles du Sud se préparent pour un week-end avec des conditions de feu difficiles, des prédictions de temps chaud, sec et surtout beaucoup de vent. L'état d'urgence est toujours en vigueur dans certaines régions. Des interdictions de feu totales d'ailleurs sont en vigueur dans les régions concernées, ainsi que dans l'extrême nord de la côte, les autorités exhortant les habitants à rester en alerte. Shane Fitzsimons, qui est le commissaire des SERV, au service de la lutte contre les incendies dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que la semaine écoulée avait été difficile pour les pompiers et pour les communautés touchées. Je vous rappelle le bilan, 4 morts et plus de 250 maisons détruites. On écoute.
For literally months now, and particularly since this widespread lightning activity started so many fires on the 5th of September, we've been averaging between 500 and 1500 personnel in the field, in management teams, trying to deal with these fires.
Voilà donc Shane Fitzsimons, donc commissaire au service de la lutte contre les incendies dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud. À noter qu'un homme de 51 ans a été arrêté et accusé d'avoir allumé un feu sur les plateaux nord de l'état de Nouvelle-Galles du Sud. La police pense que l'homme avait allumé donc cet incendie afin de protéger sa récolte de cannabis et n'a rien fait pour maîtriser l'incendie. Toujours en Australie, les appels des anciens à interdire la police de porter des armes à feu dans les communautés indigènes, et ce à la suite du meurtre d'un adolescent aborigène, toutes ces demandes ont été rejetées par le ministre en chef du Northern Territory et par la police également. Kumanjaya Walker avait été abattu chez lui alors que deux policiers tentaient de l'arrêter. C'était à Yundumu, à 300 km au nord-ouest d'Alice Springs. Et c'était la semaine dernière, le 9 septembre. De nombreux anciens donc de Yumundu et d'autres communautés disent vouloir que les armes à feu de la police soient interdites dans la communauté après donc ce décès, et parce que simplement la confiance a été endommagée avec la police, que le message était erroné et que les enfants étaient effrayés. Ned Hargrave, c'est un des aînés de Walpiri, demande également cette interdiction. On l'écoute.
Because what have they done is disrespected the community as well as the family. That's what they've done. So therefore, they need to think again. It's so extremely important to the community and the family today. We are weeping and we are not happy with the whole situation. We want the anti-government to not wear guns in remote communities.
Voilà donc Ned Hargrave, donc un des aînés de Walpiri. Libre après 6 ans sur l'île de Manus, le réfugié kurde iranien Behrouz Boutchani a été appris que la Nouvelle-Zélande lui demandait de quitter le pays avant l'expiration de son visa d'un mois. Monsieur Boutchani est arrivé jeudi soir en Nouvelle-Zélande, cela mettant fin à sa longue détention dans le système de traitement offshore australien, et ce pour prendre la parole dans un festival d'écrivains à Christchurch. Bien que monsieur Boutchani soit un réfugié reconnu par la Convention des Nations Unies et autorisé à s'installer aux États-Unis, il n'a pas encore décidé de ses projets à long terme. On l'écoute.
So now, I think I accepted by America finally, just I think last month, and now I want to be free just for a while, you know, like as a writer, nothing else, you know. So I don't want to be a part of any process for a while. So I will look at the possibility, then make decision.
13h05 en France, et c'est le tour du calendrier pour les Gilets jaunes ce week-end. Et 52 semaines, c'est-à-dire un an de mouvement. Ça fait un an que le mouvement a débuté. Les Gilets jaunes veulent faire les choses en grand pour essayer de retrouver la mobilisation des débuts. Les explications de Simon Roset.
Après des semaines de mobilisation en Berne, les Gilets jaunes veulent être nombreux pour le premier anniversaire de leur mouvement. Plus de 140 appels à manifester dans tout le pays, mais c'est Paris qui concentrera le plus d'actions. Avec pour objectif les Champs-Élysées, les Gilets jaunes n'y sont plus retournés en nombre depuis le 16 mars, lors d'un acte 18 particulièrement violent. Depuis, la zone leur est interdite, interdiction qu'ils comptent bien braver. C'est le cas d'Éric Drouet, une figure du mouvement qui entend rejoindre les Champs-Élysées en fin de journée. Auparavant, il a appelle à bloquer le périphérique parisien. Dans le reste du pays, des appels à manifester ont été lancés un peu partout. Nantes, Lyon, Montpellier, Marseille, Toulouse, Bordeaux, avec ici un rassemblement classique ou là un blocage de pont. Les zones commerciales devraient également être ciblées. Un des enjeux pour les Gilets jaunes sera donc de faire le nombre. La réponse de la préfecture de police est en tout cas déjà prête. Les derniers rassemblements d'ampleur ont en effet été émaillés de violence. Depuis le début du mouvement, 1700 Gilets jaunes et 1000 policiers ont été blessés. Pour cet acte 53, c'est ainsi une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre qui est prévue.
Et c'était Simon Roset à Paris pour RFI. Alors, selon certains, malgré la répression policière et judiciaire, le mouvement ne s'essoufflerait pas. On écoute Stéphane, un gilet jaune de la première heure.
En fait, le mouvement n'a pas du tout faibli. C'est-à-dire qu'actuellement, il est plutôt sous les radars parce qu'il ne peut plus s'exprimer de la manière dont il s'exprimait à cause de la répression. Donc ce mouvement, il est encore très présent. Simplement, il n'est plus autant visible. Et toutes les personnes qui ont été gilets jaunes sont encore gilets jaunes et sont encore d'accord pour continuer à travailler et changer les choses. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont plus le choix. Parce qu'elles ont le frigo vide pour certaines d'entre elles, parce qu'elles ont peur pour leurs enfants, parce qu'elles sont dans une grande précarité. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que les problèmes ne seront pas résolus, il y aura des gilets jaunes. Et il y aura des personnes qui seront là pour dire que ces problèmes existent, il faut les résoudre.
Voilà, donc Stéphane, un des gilets jaunes de la première heure au niveau du gouvernement. Eh bien, on se pose des questions sur les actions de ce week-end. Valérie Gasse.
Il n'y a pas de fétichisme particulier pour cet anniversaire, dit-on à l'Élysée quand un conseiller ministériel déclare un brin fataliste. On attend, sous-entendu, de voir comment se passe la journée. Et on espère tout de même que les mesures annoncées par le président sur le pouvoir d'achat ont fait baisser la pression et permettront d'éviter de relancer une dynamique de ritualisation des manifestations du samedi. Pas de panique donc, mais une grande vigilance, car comme l'a reconnu Emmanuel Macron à la rentrée, ce qui a provoqué la colère des gilets jaunes n'a pas disparu. Un de ses proches lâche même « Je ne vais pas vous dire que je sens la société moins éruptive ». Et pour cause, les mouvements de revendication se multiplient à l'hôpital, chez les étudiants, sans parler de la SNCF et de la RATP qui ont appelé à une grève contre la réforme des retraites reconductible à partir du 5 décembre. Cette date avant laquelle Emmanuel Macron veut traiter chaque situation, dit-on dans son entourage. Le président semble aujourd'hui déterminé à ne pas braquer le pays. La preuve, sa promesse d'apporter des réponses aux personnels hospitaliers dès la semaine prochaine. Les événements l'ont amené à placer l'acte 2 sous le signe de l'ouverture.
13h09, un cessez-le-feu en Israël et entre l'Israël et un groupe islamiste dans la bande de Gaza, et ce après une escalade de la violence cette semaine, violence qui aurait fait près de 34 morts du côté palestinien. Le calme semble pourtant être revenu, les explications de Marine Vlaovic pour RFI.
C'est la première fois depuis mardi que la bande de Gaza connaît une journée de calme, même s'il s'agit d'un calme très précaire. Malgré les raids israéliens la nuit dernière sur des cibles du djihad islamique, toujours pas de riposte palestinienne. Le traditionnel rassemblement de la marche du retour le long de la barrière de séparation a été annulé cet après-midi. En revanche, les manifestations contre le cessez-le-feu se sont poursuivies dans la journée dans différents endroits de l'enclave. Les participants demandent aux factions de reprendre les tirs de roquettes pour venger la mort de 34 Palestiniens. La division entre le djihad islamique, qui a été ciblé par l'État hébreu, et le Hamas, qui s'est tenu à l'écart, elle devient plus visible. Venu présenter ses condoléances, l'un des leaders du mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza a été renvoyé cet après-midi du domicile du cadre du djihad islamique visé par Israël et dont la mort a déclenché cette dernière escalade meurtrière.
C'était Marine Vlaovic donc pour RFI. Aux États-Unis, Donald Trump a suivi pour la première fois en direct les auditions autour de sa procédure de destitution et il est même accusé d'essayer d'intimider des témoins via Twitter. Tout ceci fait suite donc à un tweet du président sur le témoignage de l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Yovanovitch. C'était lors de son témoignage, le deuxième jour de l'enquête du comité donc de renseignement. Madame Yovanovitch a été limogée, je vous rappelle, brusquement en tant qu'ambassadrice américaine donc en Ukraine. C'était au printemps dernier et elle a déclaré à l'audience bien que son licenciement faisait partie d'une campagne orchestrée par le président. On écoute Marie Jovanovic.
Malheureusement, comme l'ont montré les mois qui viennent de s'écouler, tous les Ukrainiens ne soutenaient pas notre lutte contre la corruption. Cela n'est peut-être pas étonnant que, lorsque notre combat contre la corruption se heurtait à la soif de profit ou de pouvoir, les Ukrainiens qui préféraient jouer sur les vieilles règles d'un système corrompu et chercher à obtenir mon départ. Mais ce qui continue à me surprendre, c'est qu'ils aient trouvé des Américains souhaitant s'allier avec eux et travailler avec eux, et ils ont apparemment réussi à orchestrer et obtenir le départ d'un ambassadeur américain. Comment notre système peut-il échouer à ce point? Comment se fait-il que des intérêts étrangers corrompus aient pu manipuler notre gouvernement? Les intérêts de quel pays sont servis lorsque les attitudes corrompues que nous dénonçons parviennent à l'emporter?
Et toujours en Ukraine, les services de sécurité ukrainiens affirment avoir arrêté l'un des principaux commandants de l'État islamique, Albar Chichani. Chichani était l'un des adjoints sous le leader Abu Omar depuis 2012. Elena Gigantskaya, porte-parole des services de sécurité ukrainiens, a déclaré que la CIA et la police géorgienne avaient participé à cette opération. On l'écoute.
In 2018, the terrorist entered Ukraine with a fake passport and obtained legal status with the fake documents. In Ukraine, the terrorist continued coordination with Islamic State security services, the so-called Amniat network. Law enforcement detained him in the Kiev region near the private house where he stayed.
Et 13h12, coup d'œil météo pour aujourd'hui à travers le pays. Perth, il fera 38 degrés, très chaud à Perth. Adélaïde, 20. Melbourne, 18. Hobart, 16. Canberra, 26. Sydney, 24. Brisbane, 34. Cairns, 32. Et Darwin, 36 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 16 novembre. On vient de voir les incendies de ce week-end. La température reste très haute dans certaines régions du pays. Donc beaucoup de risques, beaucoup de températures élevées et du vent. Et on l'a vu également dans ce journal, anniversaire de la mobilisation des Gilets jaunes. 53 semaines. Cela fait donc un an que les Gilets jaunes sont mobilisés en France.
Rejoignez notre page Facebook et partagez.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.